Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Tous les ans, à cette même date, la litanie des chiffres et des statistiques qui ne baissent pas à travers le monde, avec une résonance tout particulière cette année, depuis l'affaire Weinstein, les femmes continuent d'être la cible de violences, de harcèlement, souvent au sein même du couple, des violences aggravées encore en cas de guerre. C'est le cas en Ukraine, où deux femmes meurent tous les jours sous les coups d'un conjoint. Le conflit dans l'est du pays a empiré la situation, les hommes traumatisés revenant du front n'étant pas pris en charge. Si la parole des femmes s'est libérée tout récemment, les réponses restent largement inadaptées. Et le reportage de Sébastien Gobert commence avec le témoignage de Natalia.
Allô? Ta, dobrego dnia. Pani Natalia.
Natalia Mazur a vécu en ménage avec un homme pendant 9 ans. En 2009, leur fils avait à peine 7 ans quand des tensions sont apparues au sein du couple. Le père s'est rapidement montré agressif.
Ça avait commencé par des bousculades et des coups. À la fin, il a menacé de me tirer dessus.
Jointe par téléphone, Natalia Mazur se rappelle de ce moment terrible. Et aussi de la réaction des secours, une fois dépêchée sur place.
J'ai appelé la police, l'ambulance aussi, parce que j'étais en sang. L'officier de police m'a regardé et m'a dit « Je ne vois pas votre cadavre ici, donc il n'y a pas de raison d'ouvrir une enquête criminelle. »
Après le choc, Natalia Mazur ne perd pas son sang-froid. Elle se sépare de son compagnon et prend contact avec des associations d'aide aux victimes de violences domestiques. Elle devient très visible dans les médias.
En 2009, rendez-vous compte, j'étais la première femme en Ukraine à oser parler de ces problèmes publiquement. Toutes les autres avant moi avaient gardé le silence.
Depuis, la parole des victimes se libère doucement. Récemment, un vaste mouvement sur les réseaux sociaux, hashtag Yaneboyuskazati, je n'ai pas peur de parler en ukrainien, a poussé des milliers de femmes à se livrer. L'experte en égalité des sexes, Ludmila Tcherniavska, affirme néanmoins que les comportements n'ont pas changé.
Plus de 600 femmes sont tuées chaque année de manière violente. Et selon les statistiques de l'ONU, plus d'un million subissent des violences sous plusieurs formes.
Ludmila Tcherniavska traite de violences physiques, mais aussi psychologiques et sexuelles. L'environnement familial, social, géographique même, ont un impact certain sur la capacité des victimes à se défendre et à plaider leur cause. Et elle sait que les statistiques qu'elle a à disposition minorent largement le problème. L'un des premiers ressorts pour les victimes, c'est la hotline de la Strada Ukraine, une ONG qui offre depuis 1998 une assistance psychologique aux victimes ainsi que des conseils légaux. Aliona Krivouliak est la directrice de la hotline. En 2016, elle a dû traiter plus de 38 000 appels. 90% d'entre eux étaient liés à des cas de violences domestiques.
Ce problème a toujours été très sérieux en Ukraine, mais depuis le début de la guerre, ça s'est aggravé.
L'annexion de la Crimée et la guerre hybride dans l'Est ont bouleversé des centaines de milliers de vies. Dans de nombreux cas, cela se traduit par des comportements violents. Le retour à la maison de dizaines de milliers d'Ukrainiens envoyés sur le front n'est pas non plus facile. Beaucoup d'anciens soldats reviennent avec des troubles psychologiques, des addictions à l'alcool ou à la drogue et se montrent plus agressifs qu'avant leur départ. De nombreuses familles s'en trouvent meurtries. Là encore, Aliona Krivouliak pointe du doigt un mauvais accompagnement des pouvoirs publics et des réponses inadaptées des forces de l'ordre. Un cas à Kharkiv, la deuxième ville du pays, l'a marqué. Une femme battue avait appelé la police après que son mari rentrait du front et tentait de la violer.
Une fois sur place, l'officier de police s'en est pris à la victime en lui disant « Enfin madame, vous comprenez que votre mari revient du front. Vous vous rendez compte de ce qu'il a vu? Il a défendu la patrie, c'est un héros et c'est votre devoir conjugal d'avoir des relations intimes avec lui. » La femme s'est refermée sur elle-même, elle nous a rappelé peu après et nous a expliqué qu'elle ne ferait plus jamais appel aux forces de l'ordre.
Ces situations choquantes ont au moins été signalées. L'experte Ludmila Tcherniavska rappelle que la plupart des cas de violence restent cachés d'autant plus dans le contexte de guerre.
Si l'on parle des violences sexuelles, il faut souligner que la situation dans les territoires occupés est très préoccupante. Nous savons qu'il y a là-bas des cas de harcèlement, de violence, de traite d'êtres humains. Des centaines de filles sans le sou sont poussées à se prostituer, mais nous n'avons aucune prise et aucune statistique sur ces territoires.
Ce 22 novembre, Ludmila Tchernevska assiste au premier forum des femmes ukrainiennes. Une plateforme où politique et société civile poussent pour un renforcement des droits des femmes, notamment à travers la modernisation d'une loi datant de 2005. L'ambassadrice de Grande-Bretagne en Ukraine, Judith Gau, veut y croire. Son ambassade pilote depuis 2015 un projet de 3 millions de livres sterling qui vise à apporter une assistance précieuse aux femmes, notamment dans l'est de l'Ukraine.
Nous avons un dispositif de 26 brigades mobiles qui ont déjà porté assistance à 8000 femmes. Une hotline fonctionne en permanence. 3 abris sont à la disposition des femmes et des jeunes filles, ainsi que 10 centres médicaux. Nous savons que les femmes ont un rôle à jouer dans la résolution des conflits et la construction d'une paix durable. Il est donc important que l'on prenne en compte leurs besoins.
Les dirigeants politiques ukrainiens et le Premier ministre Volodymyr Groysman, en premier lieu, multiplient les beaux discours. Mais il y a encore du travail. Par exemple, l'Ukraine a signé la Convention d'Istanbul de 2011 qui offre des protections juridiques claires aux victimes, mais elle ne l'a pas ratifiée.
Як ви думаєте, це позмінив, це крашував ситуацію?
8 ans après son drame, l'ancienne victime, Natalia Mazur, ne baisse pas sa garde.
Moi, j'ai découvert qu'une nouvelle vie était possible, une vie sans peur. Mais il y a des millions de femmes qui n'arrivent pas à franchir le pas, parce qu'il n'y a pas de mécanisme en Ukraine pour leur permettre de s'exprimer et encore moins de les protéger. Nos politiques discutent beaucoup, mais rien ne se fait.
L'attitude des milieux politiques et des forces de l'ordre sera un marqueur crucial de l'évolution des mentalités. La crise économique et sociale et la guerre posent néanmoins des défis considérables aux efforts de pédagogie et de libération de la parole. Les femmes d'Ukraine en sont bien conscientes, la lutte contre les cas de violence sera longue, elle ne fait que commencer.
Le constat est sombre également en Turquie où la parole des victimes n'est souvent pas reconnue. 4 femmes sur 10 disent avoir été victimes de violences domestiques. Le gouvernement a tenté malgré tout un dispositif voilà 2 ans, un bracelet électronique pour les agresseurs. C'est en tout cas ce qui était prévu. À Istanbul, Anand Lawar nous raconte cet échec retentissant.
L'idée de faire porter un bracelet électronique aux conjoints violents en Turquie est née d'un échec, celui d'un autre projet lancé en 2012. Qui promettait d'équiper toutes les femmes victimes de violences d'un boîtier déclenchant une alarme dès lors que celles qui le portaient se sentaient en danger. On devine le problème, lorsque la victime appuyait sur le bouton panique, la police était certes prévenue, mais elle arrivait souvent trop tard. En 2015, les autorités ont décidé de changer de méthode et de tester non pas un boîtier électronique pour les femmes, mais un bracelet électronique pour les hommes. Autrement dit, de ne plus localiser la femme lorsqu'elle est en danger, mais son agresseur potentiel lorsqu'il s'approche trop d'elle. Prévenir plutôt que guérir. L'idée répandue dans d'autres pays n'est pas mauvaise a priori. Le problème, c'est qu'à l'évidence, le gouvernement turc n'a pas mis les moyens. D'abord testé dans 2 provinces, Ankara et Izmir, le système a ensuite été élargi à 4 autres provinces, Istanbul, Bursa, Gaziantep et Antalya, soit les plus peuplées de Turquie, histoire de venir en aide au plus de femmes possible. 2 ans plus tard, le bilan est anecdotique. Le ministère de la Justice n'a autorisé le port du bracelet qu'à 60 reprises en 2016 et 2017. À Istanbul, de très loin la plus grande ville, personne n'a été équipé alors que la ministre de la Famille l'avait identifié comme une ville prioritaire. S'il est question d'augmenter l'an prochain ces chiffres dérisoires, difficile de dire pour l'instant que la méthode a fait ses preuves. Et pendant ce temps, les violences domestiques continuent de tuer. L'an dernier, au moins 261 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Elles sont au moins 240 depuis le début de l'année.
Et quand
Quand elles ne meurent pas, certaines femmes subissent la double peine. C'est le cas pour les épouses de migrants qui ont pu bénéficier du regroupement familial en Suisse. Ces femmes risquent l'expulsion en cas de séparation, même si c'est à cause de violences conjugales. Alors pour conserver leur titre de séjour, les autorités leur demandent de prouver l'intensité de la violence subie et sa répétition. Une procédure très lourde. Katia Michel a rencontré l'une des victimes.
Je pleure toujours, je pleure. Et il me tape des coups de poing et des gifles, toujours où elle les gifles.
Dans les bureaux de l'association La Fraternité qui lui vient en aide, Sonia, jeune Marocaine de 22 ans, a le souffle court, les yeux humides quand elle raconte les violences subies.
Des fois, elle dit pour la nourriture, des fois, pour rien. Des fois, à la fin, elle dit « Ah oui, parce que je travaille beaucoup et je sais pas pourquoi je te frappe. »
Toujours très affectée, Sonia accepte tout de même de raconter son histoire. À 18 ans, sa famille la marie avec un Marocain vivant en Suisse. La toute jeune femme débarque à Lausanne il y a 3 ans avec un permis de séjour pour regroupement familial. Mais très vite, la vie conjugale devient un enfer.
J'avais rendez-vous avec le médecin, il ne m'a pas laissé aller. Elle m'a menacé le matin, en menace, il m'a dit qu'il ne faut pas sortir sans mon autorisation. J'étais malade, j'avais un kyste. Et il m'a dit si je sors, tu vas voir qu'est-ce qu'il va arriver. Moi j'ai peur. Et le lendemain de matin, elle a vu des médicaments et m'a dit où t'as acheté ça. C'est toi que tu cherches à aller chez le médecin toujours, c'est moi que je paye. Et après, il commençait à me frapper.
Quelques mois après son arrivée en Suisse, Sonia dépose plainte. Elle veut quitter son mari violent, mais elle est seule, sans argent et elle parle mal le français.
J'avais rien, j'avais personne, je connais personne. Surtout que lui, il arrêtait de me payer, j'avais un grand problème. Oui, à cause de la pression de la famille, à cause de lui aussi, mon oncle il est venu et lui, ils ont menacé par téléphone.
Sonia se voit également refuser le renouvellement de son permis de séjour, puisque le motif regroupement familial est caduc. Pour éviter d'être renvoyée vers le Maroc, Sonia doit prouver l'intensité de la violence et son caractère systématique. Myriam Veloz est assistante sociale, elle nous montre l'épais dossier de Sonia et des dizaines de pages de preuves insuffisantes pour les autorités.
Elle avait 3 mois ou 2 mois, je ne sais plus, pour partir et rentrer au pays, alors qu'on a bien expliqué qu'elle n'a plus de contact avec la famille, qu'elle risque beaucoup. Nous, on pense que vraiment, des spécialistes qui disent qu'il y a de la violence, bah, ça devrait déjà être pris en compte, parce que dans la jurisprudence, on parle d'une intensité de la violence qui doit être atteinte. Et c'est là où nous, on se bat contre ça, parce que justement, la violence n'est pas que psychologique, il y a aussi verbale, il y a aussi économique, il y a toutes ces violences qui, dans cette situation, étaient là, étaient attestées par plusieurs professionnels, et ça n'a jamais été pris en compte.
L'intensité de la violence, ça veut dire que une claque de temps en temps, c'est pas assez?
On a pu sentir ce genre de réponse par les autorités, c'est pas suffisant. Et puis justement, les autres violences ne sont souvent pas prises en compte.
Il aura fallu 2 ans de procédure et une condamnation pénale à l'encontre du mari violent pour que les autorités fédérales de la migration considèrent ces violences comme un motif légitime de séparation. Un parcours long et compliqué qui décourage de nombreuses victimes.
On a des situations où on est encore en recours, ça fait 4 ans qu'on est aussi en procédure. Et puis, cette demande excessive de preuves fait que justement les personnes restent dans des angoisses pendant des mois, voire des années. Donc parfois, ce qui arrive, c'est que des personnes rentrent au domicile et on ne les voit plus.
Sonia, elle, devrait obtenir son nouveau permis de séjour d'ici la fin de l'année. Elle peut aujourd'hui se reconstruire et penser sereinement à un avenir meilleur.
J'espère que j'ai oublié tout ça, et même c'est difficile. Je construis une nouvelle vie. Depuis quand j'étais petite, je rêve d'être infirmière. Donc maintenant, pour l'instant, je fais plusieurs stages pour savoir c'est quoi le métier que je dois faire. Et ouais, surtout, j'oublie tout ça dans ma tête. Ouais.
Difficile de savoir combien de femmes victimes de violences renoncent à quitter le domicile conjugal par crainte d'être expulsées en cas de séparation. Grâce au travail des associations et aux différentes jurisprudences, la loi stipule qu'une raison personnelle majeure suffit désormais pour conserver son droit à une autorisation de séjour en cas de divorce. Mais les autorités fédérales de l'immigration continuent de demander des preuves souvent difficiles à fournir.
Vous l'avez entendu, pour les femmes, il est donc difficile de porter plainte car il faut apporter la preuve des violences. En Pologne, presque 20% des femmes en ont subi, officiellement, mais on estime en fait qu'un tiers des agressions n'est pas rapporté à la police. Alors pour changer les mentalités, ce sont des hommes qui se mobilisent pendant 2 semaines. Maya Szymanowska.
L'appartement chic de la rue Vilcha s'est transformé l'espace d'une après-midi en studio photo. Les volontaires ont été si nombreux que l'espace semblait de plus en plus petit. Des hommes connus et moins connus qui se prêtaient au jeu de la campagne contre la violence faite aux femmes qui doit débuter ce samedi. L'idée est simple, impliquer les hommes dans ce combat pour la diminution de la violence envers les femmes. Durant les 16 jours de la campagne, les hommes pourront aussi manifester leur solidarité aux femmes via les réseaux sociaux en joignant à leurs photos le hashtag Trzymam stronę kobiet. Je me tiens aux côtés des femmes. Une opération soutenue par le porte-parole des droits du citoyen. Mais la question qui se pose est l'efficacité d'une telle campagne. La situation en Pologne est en effet alarmante. Officiellement, selon les données de la police, 19% des Polonaises ont subi des violences, surtout conjugales, durant la dernière année, ce qui fait pas moins de 4 millions de personnes. Ces chiffres ne sont pas complets, car selon les organisations féministes, seulement un tiers des violences est signalé à la police. Et le poids de l'Église rend le divorce plus compliqué. Les femmes sont souvent culpabilisées par les prêtres et invitées à supporter leur mari violent. D'après les données judiciaires, après le signalement des violences conjugales, et si celles-ci sont indéniablement prouvées, l'agresseur partage en moyenne encore 6 mois le même domicile que la victime avant de se faire expulser. Une seule campagne internet et sur les réseaux sociaux ne résoudra probablement pas ce problème.
En Espagne aussi, ce sont les hommes qui sont approchés, car le pays a beau disposer depuis 2004 d'une loi pionnière, il ne parvient pas à endiguer ce fléau. Dernièrement, un fait divers a choqué les Espagnols, un viol collectif lors des fêtes de Pamplune, qui a tourné en mise en accusation de la jeune victime. Et c'est justement ce type de fait divers qu'utilise un atelier organisé à l'université Pompeu Fabra de Barcelone. Destiné aux jeunes étudiants, un psychologue tente de déconstruire le machisme ambiant. Laetitia Farine a pu assister à l'une de ces sessions.
Nous allons commencer par une image un peu dure. Voilà 5 hommes qui ont violé une jeune fille de 18 ans à Pamplune durant les fêtes de San Fermín. Que voyez-vous ?
5 hommes complètement normaux.
Des hommes, n'est-ce pas ? Et ils sont comme nous. Ce n'est pas inscrit, tatoué sur leur visage que ce sont des agresseurs, des violeurs. Que ressentez-vous en regardant cette image ?
Montrer aux étudiants que les agresseurs sexuels ne sont pas que des monstres que l'on retrouve dans les colonnes de faits divers des journaux, mais des hommes normaux de chair et d'os comme eux, voici l'un des objectifs de Ruben Sanchez Ruiz. Pour ce psychologue, clinicien et animateur de l'atelier, il est important de sortir de la sphère médiatique afin d'inscrire le combat contre la violence machiste dans le quotidien. Et s'ils veulent y participer, les hommes doivent apprendre à oublier ce qu'ils ont appris même inconsciemment, la domination masculine et le modèle patriarcal de nos sociétés. Pour ce faire, Ruben Sanchez Ruiz n'a qu'un mot à la bouche, responsabiliser.
Nous les hommes, nous devons nous sentir responsables de la violence que nous exerçons et de nos émotions également. Et nous devons surtout renoncer aux nombreux privilèges machistes, comme la visibilité plus grande que celle des femmes, la violence impunie et le fait que nous gagnons entre 20 et 30% de plus à travail égal. Il y a donc énormément de travail à faire.
Étudiant en droit et en sciences politiques, Sean Boyon a assisté à l'atelier. Sensibilisé il y a déjà quelques mois par des amis féministes aux questions de violence machiste, le jeune homme de 20 ans déclare que son attitude a changé.
Je me suis vraiment amélioré dans ma façon d'analyser et de reconnaître quand je fais quelque chose de mal ou que j'ai par exemple une attitude machiste. J'arrive aussi à mieux accepter les critiques venues d'une femme. Je comprends qu'elle est probablement fondée et qu'elle vient d'une perspective que je ne peux pas avoir.
Avant de quitter les étudiants, Ruben Sanchez Ruiz a tenu à leur rappeler que changer son comportement est un travail qui demande du courage et du temps, mais qui en vaut la chandelle. Ce genre d'atelier existe depuis près de 6 ans et attire de plus en plus d'hommes.
Merci d'avoir été fidèle toute cette semaine à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos. L'épopée.